La semaine sainte qui culmine d'une certaine façon aujourd'hui avec la fête de Pâques, jour de fête et jour de joie, le plus saint de tous les jours saints, la semaine sainte nous a donné d'entendre deux récits de la Passion. Dimanche dernier au Rameau, la Passion selon saint Matthieu, au Vendredi saint, la Passion selon saint Jean. Et en ce matin de Pâques, nous avons le choix de lire chez l'un ou chez l'autre, chez saint Matthieu ou chez saint Jean, la conclusion, la résurrection. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors on peut comparer ces récits, on peut d'ailleurs comparer les quatre évangiles, les confronter entre eux, en cherchant les différences, les divergences, même les contradictions, en cherchant à pinailler, ou bien on peut les lire en se concentrant sur l'essentiel, ce que nous fêtons, le Christ est ressuscité, alléluia. Il en va semblablement de l'épreuve que nous vivons. On peut compter les morts, accuser des fautifs, opposer des points de vue, ou bien on peut se concentrer sur l'essentiel, le soin aux malades, la mobilisation de la science, de la recherche, la protection des plus faibles, la solidarité du quotidien et même la préparation de l'après. Ce sont deux approches d'une même réalité. Comme dans notre vie. Notre vie est un ensemble, presque un mélange de joie et d'espoir, de tristesse et d'angoisse, de solitude et de rencontre. Dès lors, on peut employer son énergie à limiter les dégâts, à chercher à souffrir le moins possible, à tromper le moins possible, ou bien, au contraire, à faire le plus d'œuvres bonnes, pour parler comme Jésus. J'ai multiplié devant vous les œuvres bonnes, et quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. La plus accomplie de ces œuvres bonnes, la plus accomplie, c'est la résurrection. Et elle est d'autant plus belle cette année qu'elle est réellement un éclair d'amour et de lumière dans un climat d'incertitude. À Pâques, on va dire les années normales, les années précédentes, nous vivions quelque chose d'assez singulier. Il y avait plus de monde aux messes des Rameaux, pour la Passion, pour le supplice du Christ et pour sa mort, qu'aux messes de Pâques pour sa résurrection. Il est normal qu'il y ait plus de monde à la messe à Noël qu'à Pâques. Noël, c'est une fête de famille, paisible, consensuelle, prometteuse. On y emmène les enfants pour faire plaisir aux grands-parents, et mis à part la jalousie d'Hérode, la jalousie qui traîne dans tout l'Évangile comme dans toute notre vie, Pilate savait que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Mis à part quelques ombres, tout est assez heureux, qui est réuni autour d'un nouveau-né, de l'enfant Jésus, les anges, les bergers et les savants, les mages. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y ait plus de monde aux Rameaux qu'à Pâques. Alors certains disent que c'est à cause des Rameaux, qu'il y ait un truc à emporter et qu'on devrait même chaque dimanche trouver quelque chose pour varier les plaisirs et pour faire venir des personnes et être sûr de repartir avec quelque chose. D'autres disent que c'est parce que c'est le lundi qui est férié que le dimanche passe la trappe. Il y a une raison en réalité plus profonde qui est notre propension, notre facilité à nous arrêter en route, à nous arrêter avant la fin. Nous avons du mal à aller jusqu'au bout de l'histoire. C'est la résurrection qui est la fin de l'histoire. Au Rameau, la liturgie nous plaçait du côté de la foule, dans la foule. Et ça, dès le début, au moment de l'acclamation initiale, lorsque on brandit les rameaux pour qu'ils soient bénis, et puis ensuite, pendant tout le long récit de la Passion, qui fait de nous, qu'on le veuille ou non, des spectateurs. auditeurs mais spectateurs.
Et j'ajoute que l'habitude que nous avons prise de répartir la lecture de son long récit sur trois lecteurs, pour pouvoir la rendre sans doute moins monotone, avec le prêtre pour le Christ, un lecteur principal qui fait le narrateur, et puis une troisième voix pour tout le reste, les apôtres, les gardes, la populace, les grands prêtres, risque, il y a un risque, il y a cette conséquence de nous faire oublier ou d'occulter le fait que le texte tout entier est la parole de Dieu. Le texte tout entier est porté par l'Esprit-Saint. Cette répartition en trois voix est à l'image de notre vie. Symboliquement, la foule représente la diversité et la multiplicité de nos sentiments, de nos réflexions, de nos attentes et de nos réactions aux deux autres voix principales de notre mémoire, le récit, le narrateur, et de notre foi, le Christ. Les trois constituent notre vie, aussi bien nos émotions du moment que la mémoire de notre passé et notre confiance en l'avenir. Alors, le Vendredi Saint, nous reprenons le récit de la Passion, selon saint Jean, mais de façon différente parce qu'un tournant radical s'est opéré la veille, au Jeudi Saint, à la célébration de la scène, où notre assemblée n'est plus celle de la foule, c'est le groupe des disciples. Le groupe des disciples de Jésus. Et à partir de Pâques, de cette nuit, d'aujourd'hui, l'écart est encore plus éclatant. Nous ne sommes plus spectateurs, nous ne sommes plus la foule lointaine, nous sommes devenus chrétiens, croyants à la résurrection. Nous savons désormais qu'il y a un terme heureux à notre existence. La rencontre du Dieu vivant. Alléluia. Que dit la fête de Pâques ? Qu'il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. Qu'il nous faut tenir bon au-delà des souffrances et de la mort. Celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, dit Jésus. Celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Tenir bon jusqu'à la résurrection, aller jusqu'au bout de l'histoire. Je voudrais m'adresser en cet instant à ceux qui sont tentés par le doute, l'incroyance ou le désespoir, à ceux qui se sont même déjà arrêtés, parfois depuis longtemps, épuisés, dégoûtés, désespérés, qui se sont arrêtés de croire en Dieu, de croire en l'amour. Allez, levons-nous, ressuscitons, allons jusqu'au bout de l'histoire. En janvier, le pape a publié son message pour la journée de la communication. Cette année, ce sera le dimanche de l'Ascension. Et ce message cette année, c'est un appel vibrant à comprendre que notre vie est une histoire d'amour. Une histoire d'amour de Dieu, une histoire d'amour les uns pour les autres, les uns avec les autres, mais avant tout une histoire à laquelle le Christ donne tout son sens par sa résurrection. Lui qui est passé par la mort pour être le premier ressuscité. Je vous lis un passage de cette lettre. Dans la confusion des voix et des messages qui nous entourent, nous avons besoin d'un récit humain qui parle de nous et de la beauté qui nous habite. Un récit qui sache regarder le monde et les événements avec tendresse, qui raconte que nous faisons partie d'un tissu vivant, qui révèle l'entrelacement des fils par lesquels nous sommes rattachés les uns aux autres. Et le pape a cette formule magnifique, il dit « L'homme est un être narrateur ». Dès notre plus jeune âge, nous avons faim de récits comme nous avons faim de nourriture. Que ce soit sous forme de fables, de romans, de films, de chansons, de nouvelles, les récits affectent nos vies, même si nous n'en sommes pas conscients. Ce qui fait que nous décidons souvent ce qui est bien ou mal en fonction des personnages et des récits que nous avons assimilés. Tous ces récits nous marquent, façonnent nos convictions, nos comportements. Ils peuvent nous aider à comprendre et à dire qui nous sommes. L'homme n'est pas seulement le seul être qui ait besoin de vêtements pour couvrir sa vulnérabilité, mais il est aussi le seul qui ait besoin de se raconter, de se revêtir d'histoire pour protéger sa vie. Nous tissons non seulement des vêtements, mais aussi des récits, et la capacité humaine à tisser conduit à la fois au tissu et au texte. C'est une image de la résurrection. C'est pas seulement le vêtement blanc de l'ange qui est descendu du ciel. C'est la promesse de notre corps ressuscité, appelé à monter au ciel par la résurrection et l'ascension du Christ. Et il faut que nous ayons toujours en mémoire cette vision que nous entendons chaque année à la fête de la Toussaint, cette vision d'une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Je demandais, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? La réponse est donnée par un des anciens. Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Voilà la fin de l'histoire. Une histoire qui ne s'arrête pas à la mort. Une histoire qui ne se perpétue pas seulement à travers les descendants. Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est fait l'un de nous, homme, chair et histoire. Il nous a révélé qu'il n'y a pas d'histoire humaine petite ou insignifiante. Depuis que le Christ est ressuscité, depuis que Dieu s'est fait l'un de nous, homme, chair et histoire, qu'il a tout vécu de notre condition humaine, sauf le péché, chaque histoire humaine est en un certain sens l'histoire divine. L'humanité mérite des récits qui soient à sa hauteur, à cette hauteur vertigineuse et fascinante à laquelle Jésus l'a élevée. Vous croyez en la résurrection? Allez jusqu'au bout de l'histoire.